Bonjour Jean-François Billetter.
Bonjour.
Nous avons abordé dans le premier épisode votre voyage initiatique en Chine, la rencontre avec votre femme, puis le mariage, votre jeunesse en somme. Nous vous retrouvons à présent toujours jeune homme, marié à Wen, à Paris, en 1968, où vous habitiez, je crois, le quartier latin.
À côté de la Sorbonne, à la rue Victor Cousin.
Vous étiez aux premières loges.
Absolument. Donc on a eu les gaz dans notre chambre.
Vous participiez aux manifestations ?
Non. Enfin, on a beaucoup assisté. On a beaucoup assisté, mais on n'a pas nous-mêmes couru beaucoup. Mais je me souviens que je donnais un cours à Sancier, Paris 7, et qu'à un moment donné, la porte s'est ouverte et il y a un appariteur et qui est entré et qui nous a dit « L'université ferme sur l'ordre du Premier ministre Pompidou ». Voilà.
Quel regard jetiez-vous alors sur ces jeunes gens politisés qui se réclamaient de la Chine maoïste, vous qui en arriviez, qui aviez été un peu contraint d'en partir, ou en tout cas d'accélérer les choses avec Wen?
Alors attendez, plusieurs points. D'abord, aucun étudiant étranger en Chine n'a été obligé de quitter la Chine au moment de la révolution culturelle. Ceux qui ont voulu rester ont pu rester. Alors, ils ont perdu leur temps, ils ont zoné dans des universités vides, ils ont regardé ce qui se passait. En ce qui concerne Wen, mon épouse et moi-même, nous avions de toute façon décidé de revenir pour une année en Europe. Et donc, ça a coïncidé avec la révolution culturelle. Mais il faut dire aussi, rester en Chine pour elle, ça aurait été extrêmement dangereux, il n'en était pas question.
Alors, expliquez-nous pourquoi.
Mais parce que les gardes rouges ne respectaient rien, ou plutôt agissaient parfois sur ordre, et auraient pu s'en prendre à elle. Elle aurait pu disparaître, en dépit du mariage. Du fait qu'elle avait épousé un étranger. Elle l'avait épousé légalement, mais du moment que la violence se déchaîne, ou qu'elle est manipulée, on n'est plus sûr de rien.
Oui, et d'ailleurs, dans une rencontre à Pékin, je crois me souvenir que vous racontez le sort de la compagne chinoise d'un de vos amis, étudiant
oui.
Également,
oui,
qui a été autrement plus tragique.
Ah oui, complètement, oui. Parce que c'était un ami français, que j'ai toujours, qui enseignait le français, lui, à Nankin. Il avait noué une relation amoureuse avec l'une de ses élèves, ce qui est évidemment tout à fait réprouvé par le régime. Et puis... pendant la révolution culturelle, il a dû partir sans elle, et elle a été ensuite attaquée par les gardes rouges de façon tellement violente qu'elle s'est suicidée en se lançant du haut d'un immeuble. Elle n'est pas morte, elle n'a pas été soignée, parce que soigner quelqu'un qui était contre-révolutionnaire, le médecin ne pouvait pas le faire. On était dans une violence terrifiante à ce moment-là. Donc c'était une histoire tragique. C'est une histoire qui aurait pu continuer comme la nôtre, mais qui a fini de façon tragique.
Donc vous êtes à Paris, mais il me semble, avec votre femme, mais il me semble que c'est pas la première fois que vous y venez. Vous avez fait, bien sûr, votre année au Langzhou.
Oui, c'est ça.
Et vous y étiez aussi, il me semble, à 16 ans, puisque dans Bonnard et Giacometti, un de vos autres ouvrages,
ben oui.
Vous parlez de votre meilleur ami à Paris à l'âge de 16 ans,
oui.
Où vous découvrez les dessins de Bonnard, vous êtes fasciné, vous faites beaucoup de dessins, etc. Ben, alors ça, j'ai mal compris dans votre biographie.
Je vois que vous avez bien lu. C'est effectivement que dans les choses que j'ai publiées, il n'y a pas de rapport. Alors je vais vous dire en deux mots. C'est que j'ai grandi à Bâle, j'avais un bon ami, nous avions un goût commun, beaucoup de goûts communs, mais le goût du dessin, entre autres. Il faut ajouter que Bâle était une ville merveilleuse, pour découvrir l'art contemporain, parce que le musée de Bâle était très riche en art contemporain, et puis je ne sais pas si vous connaissez la fondation Beyeler à Bâle, qui est une fondation privée, mais une collection d'art contemporain absolument prodigieuse. Or, Beyeler, à l'époque, il était encore marchand d'art dans la vieille ville, tout près du gymnase, c'est-à-dire du lycée où nous allions. Et après les cours, nous allions à la galerie Beyeler. Nous pouvions regarder de tout près des Matisse, des Max Ernst, des Picasso, des Bonnard. Et donc, nous avons fait notre apprentissage de l'art contemporain comme ça, de la façon la plus merveilleuse. Évidemment, dès que nous avons pu, nous sommes allés à Paris. Pour des jeunes gens en Suisse, c'était le rêve d'aller à Paris. Et donc, allant à Paris, ayant du goût pour le dessin, ben on a fait les artistes, comme ça, on s'est installé. Et c'est vrai que encore maintenant, j'ai un goût particulier pour Bonnard, et en particulier pour ses dessins. mon goût pour le dessin n'a rien donné par la suite, parce que j'ai bien senti que j'étais pas, enfin, parce que j'ai fait autre chose. Mais le goût que j'avais de ce côté-là, il a été transféré au fond dans la calligraphie. Et donc, le goût que j'ai développé pour la calligraphie chinoise est au fond, a pris la succession du goût pour le dessin, au fond. Or, l'intérêt pour le geste, il est venu par l'apprentissage du maniement du pinceau. En Chine, autrefois, on apprenait à manier le pinceau dès l'enfance, et on ne s'interrogeait pas, on n'observait pas spécialement ce qui se passait, alors que moi, j'ai appris le maniement du pinceau à l'âge adulte. Et donc, j'ai pu à la fois l'apprendre et observer comment j'apprenais et comment je progressais. Et donc, d'un geste qui, au départ, pour des raisons techniques, est tout à fait contre nature, devient peu à peu naturel et devient ensuite même spontané et devient même, finalement, l'expression d'une personnalité. Donc, il y a ces stades-là. Et donc, c'est par la calligraphie, par l'attitude personnelle du maniement du pinceau...
Dans ces années-là ?
Non, c'est beaucoup plus tard.
C'est beaucoup plus tard.
Que je me suis intéressé aux gestes. Et donc, j'ai découvert, je me suis aperçu que la naissance du geste que j'avais observé sur moi-même en apprenant le maniement du pinceau avait une portée plus générale. Et je me suis intéressé aux gestes de façon plus générale.
À savoir au geste du violoniste, au simple geste de verser un liquide dans un verre, et donc vous développez à partir de là votre théorie de l'activité, de l'intégration. D'ailleurs, vous avez publié plusieurs ouvrages à ce sujet, le geste du chinois, il y a aussi votre ouvrage sur la calligraphie. Vous accordez une importance particulière à la calligraphie. D'ailleurs, je crois que vous n'aimez pas tellement ce mot, calligraphie, je vous ai entendu dire ça.
Oui, parce que le mot calligraphie chez nous, c'est de l'écriture ornée. Alors que la calligraphie chinoise, ça n'est pas du tout ça. La calligraphie chinoise, c'est l'art de donner vie au caractère. Et je fais la comparaison avec la musique, qui est la meilleure. L'interprète qui se met au piano pour interpréter une sonate de Beethoven, il ne va pas la modifier, il va la respecter absolument, mais il va lui donner vie. C'est en ça que consiste, c'est ça son rôle.
L'interprétation.
Or, le calligraphe chinois fait exactement cela. Oui.
Et le rôle surtout de l'écriture en Chine est très important.
Il est fondamental, c'est-à-dire que l'Empire chinois n'aurait jamais duré deux millénaires dans son unité s'il n'y avait pas l'écriture. Ça, je l'explique, c'est absolument fondamental. Ouais. Mais c'est-à-dire que la Chine, c'est un continent. Et le chinois existe sous d'innombrables formes. Et l'unité de l'Empire, l'unité administrative de l'Empire, n'aurait jamais pu durer s'il n'y avait pas eu une écriture indépendante des prononciations. Parce que les prononciations sont tellement différentes en Chine, encore aujourd'hui, que le dénominateur commun, enfin le plan sur lequel l'unité chinoise peut être faite, ça n'est pas la prononciation, c'est l'écriture. Et l'écriture étant indépendante de la prononciation, elle a assuré cette unité. C'est un phénomène extraordinaire. Alors, quand vous pensez au décret de Villers-Cotterêts de François Ier en 1539, si ma mémoire est bonne, là, il s'agit d'imposer le français, c'est l'une des formes du français de l'époque, qui remplaçait le latin. En Chine, l'unité d'un empire, non pas d'une nation, mais d'un empire, a pu être assurée techniquement parce que l'écriture était indépendante, non pas de, mais des prononciations. Il est utile de comparer un caractère chinois à un chiffre. Vous avez un chiffre, le chiffre 2, vous le prononcez de 20 façons différentes, fun, five, piat, que vous voulez, ou en chinois, c'est peu importe, parce que vous avez le chiffre, et le chiffre a toujours le même sens, quelle que soit la prononciation. Eh ben, un caractère chinois, c'est la même chose. Si vous voulez, le caractère, c'est une pièce de monnaie qui a une telle valeur et c'est absolument stable. Mais c'est pour ça que quand vous apprenez le chinois, à chaque mot, vous devez apprendre plusieurs choses. Un caractère et savoir comment l'écrire, ensuite savoir comment il se prononce et ce qu'il veut dire, et puis ensuite le ton en plus. Donc apprendre du vocabulaire chinois, c'est une opération différente que d'apprendre des mots dans une langue européenne, mais non.
On va revenir fin des années 60, début des années 70. À ce moment-là, vous êtes avec Wen. À Paris, vous apprenez un peu de japonais pour aller au Japon, je crois.
Oui.
Et oui. Vous n'avez plus aucune nouvelle à ce moment-là de la famille de Wen.
Ben non, pendant 5 ans, on n'a pas eu de nouvelles du tout. On ne savait pas qu'ils étaient vivants ou pas. Hein, oui.
Quel rôle joue Wen dans le perfectionnement du chinois à ce moment-là ?
dans le perfectionnement de
mon
chinois.
De votre chinois, vous, oui.
Bah, il est essentiel parce qu'on a parlé le chinois tout pendant... On a vécu ensemble pendant 46 ans et on a parlé le chinois souvent. Le français ou le chinois, ça dépendait.
Combien parlez-vous de langue, Jean-François Billetter?
Je peux me considérer comme bilingue français-allemand.
Oui.
Ensuite, j'ai appris le chinois et je l'ai bien appris. Donc, je peux dire, je crois, sans me vanter, que je le parle comme le français ou l'allemand. C'est-à-dire sans faute, sans hésitation et sans accent. Mais, attention, ce qui ne veut pas dire que ce soit parfait, parce qu'il y a beaucoup de domaines dans lesquels je n'ai pas le vocabulaire que je voudrais. D'autant plus que maintenant, je ne vis plus en Chine, que la langue évolue, et donc je serais pris de court maintenant, dans certaines situations. Enfin bon, le chinois, je le connais bien. Surtout que je l'ai enseigné ensuite.
Bien
et puis
sûr.
Non seulement je l'ai enseigné, mais il a fallu que je travaille beaucoup pour comprendre comment il est fait. Donc c'est une partie, ça, de mon expérience.
Latin, grec?
Alors oui, au gymnase, donc le lycée que j'ai fait à Bâle, c'était 8 ans de latin, 5 ans de grec. Et donc ça m'a beaucoup aidé, parce que ça m'a donné, le latin surtout, le goût de la grammaire. Au début, j'étais un élève absolument nul, quand j'ai commencé le gymnase, c'est-à-dire le lycée.
Je ne vous crois pas.
Hein?
Je ne vous crois pas.
Je vais vous dire, quand j'ai commencé, le maître de notre classe a reçu les parents un soir et a dit « François, il n'ira pas loin, je suis très pessimiste, il faut que vous pensiez à autre chose. » Mais je me suis rattrapé, et je me suis plutôt bien rattrapé, et j'ai eu un gros avantage, figurez-vous, ça mérite peut-être d'être mentionné au passage, c'est que j'ai eu un gros avantage sur mes camarades de classe, parce que mes camarades de classe avaient pour langue maternelle le balois, qui est très différent de l'allemand, enfin assez différent de l'allemand. Et donc pour eux, l'allemand était, ils n'aimaient pas l'allemand, et ils avaient un peu de peine, parce qu'ils s'embrouillaient tout le temps entre leur dialecte natal et l'allemand tel qu'ils étaient censés le parler. Alors moi, je n'ai pas eu cette difficulté. Je n'avais pas le fardeau du dialecte local pour accéder à l'allemand. Et donc, je suis très vite devenu le premier en allemand. Et figurez-vous que ça s'est reproduit à Pékin, parce qu'il m'est arrivé à Pékin qu'un Chinois me dise « Mais vous parlez mieux le Chinois que moi ». Alors j'ai vite compris ce que ça voulait dire. C'est que l'immense majorité des Chinois ont pour langue maternelle un dialecte, et quand ils essayent de parler le mandarin de façon parfaite, bah souvent ils ont de la peine. Et alors que moi, j'ai eu l'accès direct au mandarin. Et donc, c'est ça que ça voulait dire. Et donc, nos étudiants par la suite, dont certains ont acquis assez vite une très bonne prononciation, je leur disais, attention, quand vous allez en Chine et qu'on vous dit, vous parlez mieux le chinois que moi, il ne faut pas que ça vous monte à la tête. Sachez que c'est une affaire de prononciation, vous avez un avantage, vous êtes allé directement au mandarin. Voilà.
Et donc, des bribes de japonais aussi, italien.
Non, le japonais, c'était une... La Chine s'est enfermée, et Wen et moi ne pouvons pas y retourner, mais moi voulant continuer mes études, parce que j'avais une bourse, et puis de toute façon j'avais décidé de continuer dans cette voie-là, l'alternative c'était d'aller au Japon. Alors, on y est allé faute de mieux. Et donc il a fallu que j'apprenne un peu de japonais, et qu'une fois au Japon, j'ai pu poursuivre mes études, c'est là que j'ai fait l'essentiel de ma thèse, mais avec un délicieux professeur japonais avec qui je parlais le chinois. Et donc j'ai très mal appris le japonais. Je l'ai appris pour que nous puissions nous débrouiller dans la rue. Je l'ai assez appris pour pouvoir lire des études sinologiques dans mon domaine, mais pas plus que ça.
Qu'est-ce que ça vous a permis de maîtriser autant de langues, quand même, d'être doué de traduction, si j'ose dire?
Écoutez, il y a peut-être le point de départ, c'est-à-dire le fait d'être bilingue dans mon enfance et dans ma jeunesse, c'est peut-être un élément d'explication. Il y en a sans doute un autre, c'est que le français que j'ai au fond appris par mes parents, et je dirais surtout par mon père, était au fond une chose étrangère dans la ville où je vivais. Et donc j'ai reçu ça, et je crois que j'ai beaucoup apprécié le français. D'ailleurs, je suis venu ensuite à Genève pour faire des études de lettres, comme une espèce de cadeau qui me distinguait des autres, qui m'a paru précieux. Et j'attache à la langue française encore maintenant un prix peut-être plus élevé que d'autres. D'ailleurs, je souffre beaucoup de la façon dont le français est maltraité souvent maintenant dans ce que j'entends. C'est catastrophique, ça me rend malade.
Est-ce que à ce moment-là, quand vous poursuivez vos études avec Wen et que vous voyagez donc au Japon, à Hong Kong, vous aviez déjà l'idée d'enseigner.
Mais c'était la voie naturelle, c'était quasiment inévitable, il n'y en avait pas d'autre. Mais ça n'était pas joué d'avance. Et donc j'ai fait de longues études parce que j'ai été soutenu, parce que j'ai eu des bourses, j'ai eu beaucoup de chance. Mais une fois de retour en Suisse, c'était pas du tout sûr que j'aurais un emploi quelconque. Nous étions de retour, nous étions chez mes parents à Bâle, et puis je suis allé me présenter au professeur de chinois de sinologie à Zurich, en me disant que peut-être il aurait quelque chose à m'offrir. Mais j'aurais pu rester à la rue. D'ailleurs, le danger de me trouver à la rue s'est reproduit par la suite. Mais heureusement, les choses ont bien tourné.
Alors racontez-nous, vous trouvez un directeur de thèse finalement à Genève, c'est ça ?
Alors, lors de mes études à Pékin, j'ai vu que je m'engageais vraiment dans une partie sérieuse et que ça risquait de me mener plus loin. Et donc, je me suis dit, si c'est la voie universitaire, eh bien, il faudrait peut-être faire une thèse. Et donc, j'ai cherché un sujet, puis je suis tombé sur le livre à brûler et le livre à cacher de Li Zhe, que vous avez peut-être lu.
Et je me suis... paraître chez Alia, d'être publié.
Voilà. Et donc, je me suis emparé de cela. Et j'en ai fait un sujet de thèse. Et ensuite, de retour en Suisse, il a fallu que je dise, voilà, je me voilà avec un sujet de thèse, qu'est-ce qu'on fait ? Comme j'avais fait une licence de lettres à Genève, que c'était ma faculté, si vous voulez, eh bien, ce projet de thèse a été accepté, bien qu'il n'y eût absolument pas d'études chinoises ici à Genève. Mais un historien a assumé le rôle de directeur de thèse alors qu'il ne connaissait pas la Chine du tout. Et puis le directeur réel sinologue, eh bien, c'était Jacques Gernet à Paris. Et donc il y a eu une espèce de division des rôles, de séparation des deux rôles. Et puis ça a fonctionné comme ça.
Je crois que votre directeur genevois vous a dit, écoutez, monsieur Billetter, il faut terminer votre thèse, sinon je ne pourrais pas vous garder.
Ah non, ça c'est beaucoup plus tard.
Vous racontez ça dans l'introduction de Li Zhe.
Oui, mais ce n'est pas le directeur de thèse, c'est plus tard. Parce que par la suite, c'est une longue histoire. Mais à un moment donné, j'ai d'abord été assistant à Zurich, et puis je n'avais pas envie de faire ma vie à Zurich. Et donc je suis venu à Genève revoir deux, trois personnes que je connaissais pour signaler mon existence et voir si peut-être y aurait quelque chose à faire à Genève. Et à la suite de circonstances heureuses, parce que j'avais un ami d'études qui entre-temps était devenu doyen de la faculté, il m'a appelé au début de l'été et il m'a dit « j'ai une marge dans mon budget ». On va faire quelque chose, je t'offre à l'automne 2 ou 3 heures d'enseignement d'histoire chinoise. Alors il a fallu, j'ai passé un été abominable, parce qu'il a fallu que je m'improvise prof d'histoire, alors que j'étais pas préparé à ça spécialement. Je garde un très mauvais souvenir de cet été, et je me suis débrouillé. Et donc ensuite ça a été un début à Genève. Et puis l'année suivante, ça a été la même chose. Le même ami devenu doyen me dit au début de l'été, tu sais, j'ai de nouveau une marge dans mon budget. C'était l'époque des vaches grasses encore. Et on pourrait peut-être même introduire un enseignement de langue chinoise. Alors là, de nouveau, on s'est dépêché pendant l'été. C'était pas annoncé dans le programme des cours.
Un programme fantôme.
Oui, c'est un programme fantôme. Alors, dans les corridors, au dernier moment, on a affiché, on a annoncé qu'il y avait du chinois.
Et comme ça est née la première chaire ou premier département d'études chinoises.
Ça a commencé comme ça. Enfin, il y en avait à Zurich, mais il n'y en avait pas en Suisse romande. Et ça a commencé comme ça. Et ça a été une suite d'occasions saisies. Et de parties qui pouvaient paraître injouables, mais qu'on a quand même joué. Mais ça a été très dur parce que la faculté n'avait pas réellement décidé d'introduire le chinois. Donc, l'aéropage, le collège des professeurs, au fond, à un moment donné, a trouvé qu'on lui avait fait un bébé dans le dos. Parce qu'il n'avait jamais décidé qu'il voulait le chinois dans leur faculté. Et donc, on me l'a fait payer très cher.
Ah bon?
Oui, oui. Ben donc tout ça, c'est une aventure.
Comment ça s'est manifesté ? Vous avez subi des représailles ?
Non, mais les étudiants venaient, ça fonctionnait. Il y en avait de plus en plus, mais j'avais pas les moyens. Pas le moyen d'acheter de livres, pas le moyen de la mauvaise volonté caractérisée. Et à force de réussir, eh bien finalement, nous nous sommes imposés.
Vous leur avez forcé la main. Ils ont été obligés de reconnaître le bébé illégitime.
Voilà. C'est ça.
Là, nous sommes à peu près à quel moment ? Années 70.
L'histoire commence je suis pas sûr des dates, en 72. Et puis la reconnaissance est venue pendant les années 80.
et vous enseignez donc jusqu'en 1999. Comment vous commenciez en général un premier cours avec vos premières années d'étudiant en études chinoises ?
Ah, vous parlez du cours de langue ?
Le cours de langue ou le cours de civilisation, oui, parce qu'il y avait les deux, c'est ça ? Cours de langue et cours d'histoire.
La base de tout, c'est le cours de langue.
Alors, racontez, s'il
oui,
vous plaît.
Mais ça, ça, c'est encore une longue histoire que je raconte un peu dans un petit livre qui s'appelle « L'art d'enseigner le chinois ». Et parce que je me suis rendu compte que nous avions une chance extraordinaire de pouvoir tenter quelque chose de nouveau, parce que le chinois n'existait pas encore dans cette faculté-là, et donc nous pouvions prendre des décisions initiales, parce que souvent quand on entre dans une institution qui fonctionne déjà, on est obligé de se soumettre à des habitudes et à une autorité qui est déjà en place. Là, nous avions très peu de moyens, mais la liberté de choisir ce que nous allions faire. Et nous avons pris des décisions intéressantes qui ont donné lieu ensuite à un enseignement qui a fait ses preuves et que j'ai décrit beaucoup plus tard dans l'art d'enseigner le chinois.
Donc dans l'art d'enseigner le chinois, vous écrivez, page 42, que vous avez acquis au fil des années un savoir-faire grandissant.
Oui.
Et que jusqu'à il y a peu, vous aviez nourri l'ambition de sauvegarder en mettant par écrit chacune de ces leçons et en livrant tous les secrets du métier. Et vous avez finalement renoncé à cette entreprise.
Alors, il y a plusieurs choses. Lorsque j'ai quitté l'université, l'une des choses que je me proposais de faire, c'était une grammaire. Parce que, il faut que je prenne un peu de recul pour vous expliquer. C'est que, chez nous, c'est-à-dire en Europe, la grammaire, depuis l'époque hellénistique, même depuis l'époque grecque classique, mais surtout hellénistique, la grammaire est une institution intellectuelle fondamentale pour la formation de l'esprit et même pour la philosophie. Et donc, mais en chinois, il n'y a pas d'équivalent. Les Chinois n'ont jamais été des grammairiens. Et donc,
ils ont calqué leur grammaire sur les grammaires occidentales.
Alors, à l'époque contemporaine, et ils ont découvert que nous avions des grammaires et la grammaire. Et donc, il y en a un surtout qui a été envoyé par les frères lazaristes de Shanghai pour faire du latin à Sorbonne, a découvert la grammaire et il s'est dit, il faut que nous ayons une grammaire. Et il a fait un chef-d'œuvre. Mais c'est la grammaire chinoise calquée. D'abord, c'est la grammaire du chinois classique et c'est une grammaire calquée sur la grammaire latine. Et à partir de ce moment-là, on est au tournant du siècle vers 1900, à partir de ce moment-là, les Chinois se sont mis en devoir de faire la grammaire de leur propre langue, mais c'était des grammaires calquées sur nos grammaires. C'était aussi pour un souci d'uniformisation de la langue chinoise en vue de créer une langue nationale chinoise. Le résultat, c'est que la grammaire ou les grammaires du chinois qu'on a depuis lors sont des côtes mal taillées. Et que pour les Chinois qui n'ont pas vraiment besoin de grammaire, tant leur langue est logique et naturelle, quand nous devons apprendre leur langue avec ces grammaires-là, eh bien, nous sommes mal partis. Et à un moment donné, il fallait reconsidérer le fonctionnement de la langue chinoise, non plus à partir de ces cadres préétablis venant d'Europe, mais à partir de la langue chinoise elle-même. Et c'est ce que nous avons fait, et c'est ce que j'ai fait, et c'est ce qui m'a beaucoup intéressé. C'est seulement après l'université que j'ai pu me mettre au travail à faire une grammaire du chinois fondée sur l'intelligence que j'avais acquise moi du fonctionnement du chinois.
Je comprends. Et comment vous partagez les rôles avec Wen qui enseignait, qui avait aussi le statut de professeur alors?
Alors, c'est une chose extraordinaire parce qu'elle était médecin et puis elle n'était pas du tout préparée. D'ailleurs, elle n'avait aucune idée de la grammaire, comme c'est général en Chine. Et elle est entrée dans ce rôle-là et finalement, elle l'a très bien exercé parce qu'elle avait la personnalité qu'il fallait pour enseigner. Donc, elle avait le rapport aux autres qu'il fallait pour bien enseigner une langue.
Vous avez aimé enseigner ?
Alors, j'ai beaucoup aimé enseigner, mais ensuite, je me suis beaucoup fatigué de l'enseignement plus général, parce que il y a pas seulement l'enseignement, mais il y a aussi les tâches administratives, la gestion d'un département, il y a tellement de choses en plus que ça finit par être éreintant. Et puis, je n'ai jamais eu les moyens suffisants. Il m'est arrivé, alors que statutairement, je devais donner 6 heures, souvent, j'en donnais 10. Et souvent, il m'est arrivé d'être tellement éreinté que je dis à des étudiants lors d'un séminaire, écoutez, je n'en peux plus, j'arrête pendant 3 mois. Je vous donne rendez-vous dans 3 mois, j'en pouvais plus. Et je l'ai fait, sans annoncer quoi que ce soit au doyen de la faculté.
Vous aviez comme Lijieu des rapports un peu mauvais rapports avec vos supérieurs ?
Non, pas de façon générale. Ah. Non. Et pas sur le plan personnel. Simplement, j'ai souffert de ne pas avoir les moyens que j'aurais dû avoir étant donné ma tâche. Voilà, c'est ça.
Ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'entre-temps est né un fils de votre union avec Wen, Terence.
Au Japon, oui.
Au Japon. Rien à voir avec Terence le poète.
Si, il y a un rapport, parce que il a fallu lui trouver un nom. Et puis, c'est amusant, parce que j'étais plongé dans le travail de ma thèse, donc j'étais à la fin de l'époque des Ming, là, au XVIIe siècle, et il était question des premiers missionnaires européens qui avaient mis le pied en Chine, et il y avait notamment un certain Schreck, en allemand, Schreck, ça veut dire l'effroi, hein, mais c'était aussi un nom de famille. Et puis, il y avait un missionnaire jésuite, je crois, qui était de la région de Constance, qui s'appelait Schreck, mais qui s'est donné un nom latin. Et il s'est donné le nom latin de Terentius, avec deux R comme terreur. Alors, nous attendions cet enfant, il fallait lui trouver un nom, j'avais Terentius, et puis je me suis souvenu que Marx avait emprunté à Terence, alors l'auteur latin.
Sa maxime préférée, c'est ça ?
La maxime préférée, voilà.
Rien de ce qui est humain ne m'est étranger.
Voilà. Et alors je me suis dit, tiens, Terentius, Terence, Terra. Puis Terence, au fond, c'est un joli nom qui n'est pas fréquent en français. Et alors pourquoi pas Terence, voilà.
Et d'ailleurs, Terence a marché dans vos pas à tous les deux. Je crois qu'il est diplomate.
Il est diplomate, voilà. Ouais. Mais j'ajoute une petite chose, c'est qu'un ami sinologue belge, beaucoup plus lettré que moi, m'a signalé avec un sourire en coin par la suite que la fameuse phrase dont Marx avait fait sa maxime était dans la pièce de Terence, prononcée par un voleur qui, avant d'entrer dans une chambre, regarde s'il y a quelqu'un dedans à travers le trou de la serrure, voit un couple en train de forniquer et qui dit « Rien d'humain ne m'est étranger ».
Peut-être qu'en tout cas que votre fils a été influencé par cette maxime, mais aussi par son grand-père maternel, qui est un personnage historique, en quelque sorte. Mais vous nous raconterez, si vous voulez bien, cette histoire dans le prochain épisode, car il nous faut hélas déjà conclure celui-ci. Un prochain épisode qui nous ramène en Chine, lorsque la mal nommée révolution culturelle s'achève, où vous allez poursuivre l'enquête. À demain, Jean-François Billetter.
À demain.
À voix nue, avec Jean-François Billetter, réalisation Guillaume Baldi, chargé de programme Daphné Abgral, une série d'entretiens proposés par Thibaut Henton pour France Culture, à retrouver sur le site et sur l'application Radio France.